Chapitre 27. La tempérance à Kamouraska, scandale public. Deux jours après mon arrivée à Kamouraska, je reçus une lettre signée par presque tous les curés des environs, me priant de ne pas établir la société de tempérance dans ma nouvelle paroisse, comme je l'avais fait à Beauport. Ils donnaient comme motif de leur demande le fait que l'ivrognerie n'y était pas aussi répandue. Je leur répondis que mon habitude était de me mêler de mes propres affaires sans m'occuper de celles de mes voisins. Et je les priais d'en faire autant. Ils eurent bientôt honte d'avoir tenté de m'empêcher d'établir la grande réforme qui devait faire autant de bien dans leur paroisse que dans la mienne. Le second dimanche, la foule fut encore plus grande que le premier. J'avais appris que le lendemain lundi, tous les marchands de la paroisse devaient aller acheter leurs provisions de rhum pour l'hiver. Je commençais mon sermon ainsi. J'ai appris que messieurs les marchands partent demain pour Québec afin d'y acheter le rhum et les autres boissons enivrantes dont on a coutume de faire usage ici. Comme ami de ces messieurs, je leur conseille publiquement de ne pas apporter une seule goutte de boisson enivrante à Kamouraska, car ce sera leur ruine. Comme remplaçant de notre Seigneur Jésus-Christ et parlant par son autorité, je leur défends absolument. Je leur répète que s'ils en apportent, leurs caves resteront remplies car personne ne voudra en acheter à l'avenir. Dimanche prochain, avec la grâce de Dieu, je vous montrerai à tous que ces boissons ne sont qu'un poison détestable qui tue tout ensemble le corps et l'âme. Puis, je continue à parler sur ce texte. Tenez-vous toujours prêts, car vous ne savez ni l'heure ni le jour où je viendrai vous chercher. Quoique mes auditeurs aient paru satisfaits du sermon, ils furent très irrités de ce que j'avais dit aux marchands. Ils les environnèrent aux sorties de l'église pour leur assurer que le jeune curé ne les conduirait pas par le bout du nez, comme il l'avait fait à Beauport. On avait fait une bonne récolte cette année et on voulait passer un joyeux hiver. L'église de Kamouraska n'avait jamais vu une foule aussi nombreuse dans son sein que celle qui s'y pressait le troisième dimanche après mon arrivée. Les habitants des environs étaient accourus non seulement par la curiosité d'entendre mon premier grand sermon sur l'alcoolisme, mais aussi pour jouir de ma confusion, car ils étaient sûrs que j'allais échouer complètement. Longtemps avant l'office, les gens s'agitaient autour du temple et renouvelaient de la manière la plus sérieuse les promesses qu'ils s'étaient faites les uns aux autres toute la semaine, de ne jamais renoncer à l'usage de boissons qui leur donnait tant de jouissance et de ne pas se joindre à une société si ridicule. Mais que sont toutes les résolutions de l'homme contre Dieu? Notre Dieu n'est-il pas le maître des cœurs? Je n'étais pas à la moitié de mon sermon que ces résolutions étaient oubliées. Les cœurs n'étaient pas seulement émus et touchés, ils étaient fondus, changés par le grand Dieu qui voulait de nouveau montrer que les œuvres de sa miséricorde sont au-dessus de toutes les œuvres de ses mains. Dès les premiers jours de mon arrivée à Kamouraska, j'avais fait une étude sérieuse des maux que les boissons fortes avaient entraînés après elles dans cette paroisse. J'avais recueilli les faits suivants. Depuis 20 ans, 12 pères de famille s'étaient noyés pendant qu'ils étaient ivres, laissant autant de veuves et 22 orphelins dans la plus affreuse misère. 70 des plus riches habitants, complètement ruinés par leur ivrognerie, avaient été chassés de leur propre maison par les marchands de rhum. 70 autres avaient hypothéqué leurs terres pour toute leur valeur, chez les débitants de liqueurs, et ils étaient menacés d'être bientôt chassés eux-mêmes. 7 mères de famille étaient mortes dans le délirium tremens, 4 meurtres s'étaient commis, dont une des victimes était Achille Taché, mon ancien camarade. Tout cela avait été causé par l'ivrognerie. 100 000 piastres avaient été payés aux marchands de boissons depuis 15 ans seulement. La dette de la paroisse de Kamouraska s'élevait à la somme de 40 000 livres sterling. Les 3/4 de cette dette étaient l'effet direct de l'usage des boissons enivrantes. Je récapitulais tous ces faits qui étaient authentiques et connus de tous. Puis, je dépeignis sur leur vraie couleur la désolation et les souffrances des familles ruinées, les larmes de celles qui avaient été chassées de leurs héritages par le fouet des marchands d'alcool. Ces familles étaient celles de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs propres enfants. C'était eux-mêmes qui m'écoutaient. Je leur fis le tableau des larmes, des cris déchirants, des jours de deuil, de ces ruines, de ces morts. Je dépeignis le désespoir et la rage des âmes malheureuses que la boisson avait jetées dans l'enfer. Je leur montrai qu'il n'y avait pas un seul, non, pas un seul parmi eux, qui n'avait souffert un de ces maux, sinon dans sa personne, du moins dans l'un des siens. Quand je retraçai l'histoire épouvantable des maux que la boisson avait produits depuis 20 ans seulement, on entendit partout dans l'enceinte de cette vaste église que des lamentations et des cris. Ce sermon dura 2 heures. Lorsque j'eus fini de parler, je conjurai tous ceux qui voulaient s'unir à moi pour sécher toutes ces larmes, faire cesser toutes ces hontes, ces misères et ces crimes, de venir baiser les pieds du crucifix que je tenais à la main. Ce serait à ce signe, leur dis-je, que Dieu et les hommes sauraient qu'ils ne voulaient plus souiller leurs lèvres avec les boissons détestables et maudites qui avaient coulé au milieu d'eux comme un déluge de feu, de malédiction et de mort. 1310 personnes vinrent à ce premier appel s'enrôler sous les étendards bénis de la tempérance. Il n'y en eut pas plus de 50 qui refusèrent et encore, à quelques exceptions près, vinrent-ils grossir les rangs des braves soldats de la tempérance quelques dimanches plus tard. Le même jour, les femmes des marchands envoyèrent un express à Québec raconter à leur mari tout ce qui s'était passé. Pas un baril de boisson forte ne fut importé, cet automne-là, ni après, pendant les 4 ans que je passais à Kamouraska. L'admirable fidélité avec laquelle le peuple tint parole parla si éloquemment aux populations environnantes que l'on vit bientôt les étendards bénis de la tempérance flotter en triomphe sur les paroisses de tout le pays. La réforme fut si complète et les gens si fidèles à leurs engagements que le commerce de l'alcool cessa presque entièrement dans tout ce grand district, comme il avait cessé à Beauport et dans les environs de Québec. Comme toutes les grandes œuvres de Dieu, cette réforme fut aussi parfaite qu'elle pouvait l'être parmi les hommes. Ses fruits bénis se firent bientôt voir partout, dans la paix, la prospérité, l'éducation et toutes les vertus qui font le bonheur des peuples. Mon Dieu seul pouvait comprendre ce que j'éprouvais de joie à la vue des merveilles que sa main toute-puissante et miséricordieuse opérait partout. Mais, sur cette terre de péché, nos joies ne sont jamais sans quelques mélanges de douleurs. Comme j'étais constamment appelé d'un bout à l'autre du pays, j'avais des occasions que jamais prêtre au Canada n'a eu de connaître les misères humaines, les scandales secrets et publics dont l'Église romaine au Canada, comme partout, est le théâtre. Il me faudrait écrire bien des livres pour donner l'histoire de toutes les abominations dont j'ai été le témoin. Pour n'être pas trop long, je ne rapporterai pour le moment qu'un de ces faits qui ne peuvent se voir que dans l'Église de Rome, car il découle de son célibat et de sa confession auriculaire comme le ruisseau de sa source. Au printemps de 1830, un jeune vicaire de Québec nommé Derome fut invité à prêcher à Verchères, jolie paroisse du district de Montréal, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Il se prit là d'amour pour une de ses jeunes et belles pénitentes et lui persuada de le suivre à Québec après lui avoir fait jeter ses robes dans le fleuve pour faire accroire à ses parents qu'elle était tombée à l'eau et s'était noyée. Habillée en homme, elle fut installée comme domestique au presbytère de Québec sous le nom de Joseph. C'est là que je l'ai vue moi-même bien des fois, admirant sa propreté, son adresse et ses bonnes manières. Je savais que Joseph couchait dans l'antichambre de l'évêque. Plusieurs des premiers citoyens catholiques romains de Québec m'exprimèrent leurs soupçons sur son identité et me dirent que je ferais bien en parler à l'évêque. Mais je n'étais alors que simple ecclésiastique, je refusais donc de me charger de cette délicate et dangereuse mission. Je leur montrais que leur grand âge et leur haute position dans le monde donneraient plus de poids à leur avis. Ils se décidèrent donc à parler eux-mêmes. La position de l'évêque et de ses prêtres devint bien humiliante et bien pénible. Leur barque avait évidemment dérivé au milieu de dangereux écueils. Il devenait absolument impossible de garder Joseph après des avis si nombreux et qui partaient de si haut. Mais comment renvoyer brusquement ce serviteur qui en savait si long sur la manière dont la plupart des évêques et des prêtres observent le célibat? Heureusement pour eux que le curé des éboulements, le père Clément, arriva à la ville à la recherche d'un serviteur. Il conseilla à l'évêque d'acheter le silence de Joseph par une somme d'argent et il l'engagea à son service. Tout sembla d'abord aller à merveille entre Joseph et son nouveau maître, mais quelques paroissiennes plus clairvoyantes que d'autres finirent par soupçonner que tout n'était pas aussi correct entre le curé et son domestique qu'on lui désirait. Pour faire cesser tous ces soupçons par un coup d'État, le prêtre maria bientôt Joseph avec une pauvre fille du voisinage après avoir légalement publié les 3 bans au prône de l'Église. Quelque temps plus tard, il changea de cure, laissant son successeur dans l'ignorance de ce mystère d'iniquité. Un jour que Joseph, resté aux éboulements, était à l'ouvrage près du presbytère avec quelques autres personnes, un étranger se présenta et lui demanda si le curé était chez lui. « Oui, monsieur, répondit Joseph. De quelle paroisse venez-vous ? » « De Verchères. » À ce mot de Verchères, Joseph devint pâle comme la mort et ne put dire un mot. Son embarras fut remarqué. L'étranger fixa son regard sur lui et le toisa de la tête aux pieds. Puis il s'écria « Geneviève, Geneviève, toi que nous avons cru noyer depuis si longtemps, te voilà ici habillée en homme. Au nom de Dieu, s'écria Joseph, mon cher oncle, car c'était son oncle, ne dites pas un mot de plus. » Mais il était trop tard. Les quelques personnes qui étaient là avaient entendu ce que l'oncle et la nièce s'étaient dit. Les soupçons qui planaient depuis si longtemps sur Joseph étaient donc fondés. Elle n'était ni plus ni moins qu'une fille habillée en homme qu'un de leurs curés avait gardé chez lui depuis longtemps et qu'il avait mariée à une autre fille pour mieux tromper le monde sur cet abîme d'iniquité. La nouvelle s'en répandit aussi vite que l'éclair parmi les populations avoisinantes. J'en avais entendu parler, sans cependant y ajouter foi. Il me fallut pourtant bien y croire lorsque, arrivé aux éboulements un moment après que tout fut découvert, j'entendis de la bouche de témoins oculaires l'histoire de cette grande iniquité depuis le commencement jusqu'à la fin, telle que je la donne ici en abrégé. Comment exprimer le trouble et la confusion des coupables? Cette fille publiquement démasquée n'allait-elle pas tout révéler? En habile homme, l'évêque lui envoya à l'instant un prêtre de confiance avec 500 livres pour lui faire quitter le pays sans délai. Pour mieux la décider de prendre la route de l'exil, on lui assura qu'elle était exposée à être condamnée au pénitencier pour sa vie. Elle accepta les 2000 piastres et partit aussitôt pour les États-Unis. J'aurais mille fois désiré n'avoir jamais connu cette abominable histoire et j'aurais donné tout au monde pour qu'il m'eût été permis de mettre en doute quelques-uns de ces détails. Car, je ne le cacherai pas, ces abominations que le ciel me montrait comme le pain quotidien, non seulement de quelques jeunes prêtres, mais de mes propres évêques, ébranlait ma foi jusque dans ses fondements. Je me rappelais alors ce que m'avait dit M. Perras la première année de ma prêtrise, des larmes et du désespoir de l'évêque Plessis lorsqu'il s'était aperçu que tous les prêtres du Canada, à l'exception de trois, étaient des athées. Je me sentis humilié et honteux d'appartenir à ce clergé de Rome dont une partie, sinon la totalité, nageait dans des infamies qu'on aurait à peine tolérées à Sodome. J'avais appris bien des scandales avant celui-là. Je connaissais bien les infamies, mais aucune n'atteignait en monstruosité celle dont Joseph était à la fois le principal auteur et la victime. Pour la première fois, je regrettais d'être prêtre. Il me sembla que le sacerdoce romain était l'accomplissement de la prophétie de Jean touchant la grande prostituée qui enivre les nations du vin de ses enchantements. Le confessionnal, première source de toutes ces iniquités, m'apparut comme il est réellement une école de perdition pour le prêtre et ses pénitentes. Le célibat ne devient plus à mes yeux qu'un masque hideux pour cacher une corruption de mœurs chez les prêtres que le vieux paganisme aurait à peine soupçonné. La lumière qui m'était donnée alors m'aurait assurément conduit au port du salut si j'avais eu le bonheur de la suivre. Mais hélas, j'étais aveuglé. Le bon maître n'avait pas encore touché mes yeux de sa main régénératrice. Je ne connaissais d'autre église que celle de Rome, hors de laquelle il me semblait impossible de trouver le salut. Cependant, je me demandais comment je pourrais espérer de vaincre sur le champ de bataille où tant d'autres, aussi forts que moi, avaient été vaincus et avaient misérablement péri. J'étais rempli de troubles et d'inquiétude. J'aurais voulu m'enfuir. Je me défiais non seulement de moi-même, mais de tous les prêtres et même de mes évêques. Je me défiais de tout le monde. Ma belle paroisse de Kamouraska, bien qu'elle me donnait tous les jours de nouvelles preuves de son affection et de sa reconnaissance, avait aussi perdu son attrait pour moi. De quelque côté que je tournais mes regards, je ne voyais autour de moi que mauvais exemples et séductions, que pièges et abîmes. J'aurais désiré sortir de ce monde d'illusions, j'aurais voulu fuir. Il me semblait que, comme Lot au milieu de Sodome, j'entendais les anges de Dieu qui me criaient de m'éloigner pour sauver mon âme.